Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 décembre 2025. Sujet : l'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique ? Texte d'or, Jérémie. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Lecture alternée. Job. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La Bible. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Adonit Sétek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Adonit Sétek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Considère encore les merveilles de Dieu. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Marie Baker Eddy. L'Écriture nous apprend que tout est possible à Dieu, que tout bien est possible à l'Esprit. La science révèle la possibilité d'accomplir tout bien et incite les mortels à travailler pour découvrir ce que Dieu a déjà fait. La science chrétienne explique toute cause et tout effet comme étant mentaux, non physiques. Elle lève le voile de mystère qui couvre l'âme et le corps. Elle montre la relation scientifique de l'homme à Dieu, démêle les ambiguïtés enchevêtrées de l'être et libère la pensée emprisonnée. En science divine, l'univers, y compris l'homme, est spirituel, harmonieux et éternel. Le principe créateur, vie, vérité et amour, c'est Dieu. L'univers reflète Dieu. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchi. Dans l'univers de la vérité, la matière est inconnue. Aucune supposition d'erreur n'y pénètre. La science divine, la parole de Dieu, dit aux ténèbres à la surface de l'erreur, « Dieu est tout en tout, et la lumière de l'amour toujours présent illumine l'univers. » D'où la merveille éternelle que l'espace infini est peuplé des idées de Dieu qui le reflètent en d'innombrables formes spirituelles. L'entendement, souverain sur toutes ses formations et les gouvernant toutes, est le soleil central de ses propres systèmes d'idées, la vie et la lumière de toute sa vaste création. Et l'homme est tributaire de l'entendement divin. Le monde s'écroulerait sans l'entendement, sans l'intelligence qui rassemble les vents dans ses mains. Ni la philosophie, ni le scepticisme ne peuvent entraver la marche de la science qui révèle la suprématie de l'entendement. Le sens immanent de l'entendement force met en valeur la gloire de l'entendement. La proximité, non l'éloignement, confère de l'enchantement à cette perspective. Les minéraux composés ou l'agrégat de substances formant la Terre, les rapports qui existent entre les masses constituantes, les magnitudes, les distances et les révolutions des corps célestes ne sont d'aucune importance réelle, quand on se rappelle qu'ils doivent tous disparaître devant le fait spirituel par le replacement de l'homme et de l'univers dans l'esprit. Dans la mesure où cela s'effectuera, on verra que l'homme et l'univers sont harmonieux et éternel. Les substances matérielles ou formations terrestres, les calculs astronomiques et tout le cortège des théories spéculatives fondées sur l'hypothèse d'une loi matérielle ou de la vie et de l'intelligence résidant dans la matière disparaîtront finalement engloutis dans le calcul infini de l'esprit. Le mouvement et la position de la Terre sont maintenus par l'entendement seul. Il n'y a qu'une attraction réelle, celle de l'esprit. L'aiguille aimantée se tournant vers le pôle symbolise ce pouvoir qui embrasse tout, cette attraction de Dieu, l'entendement divin. Les planètes n'ont pas plus de pouvoir sur l'homme que sur son créateur, puisque Dieu gouverne l'univers. Mais l'homme, reflétant le pouvoir de Dieu, a la domination sur toute la Terre et tout ce qu'elle comprend. La plante croît, non grâce à la semence ou au sol, mais parce que croître est le commandement éternel de l'entendement. La pensée mortelle tombe dans la terre, mais la pensée créatrice immortelle vient d'en haut, non d'en bas. Puisque l'entendement fait tout, il ne reste rien à faire par une puissance inférieure. L'esprit agit par la science de l'entendement, n'obligeant jamais l'homme à cultiver le sol, mais lui donnant la supériorité sur la terre. La connaissance de ce fait élève l'homme au-dessus du sol, au-dessus de la terre et des choses terrestres, jusqu'à la consciente harmonie spirituelle et jusqu'à l'être éternel. Si nous prions Dieu en tant que personne corporelle, cela nous empêchera de nous défaire des craintes et des doutes humains qui accompagnent une telle croyance, et nous ne pourrons par conséquent saisir les merveilles accomplies par l'amour infini, incorporel, à qui toutes choses sont possibles. Le miracle n'introduit pas le désordre, mais déroule l'ordre primitif, établissant la science de la loi immuable de Dieu. Seule l'évolution spirituelle est digne de l'opération du pouvoir divin. En Égypte, ce fut l'entendement qui sauva les Israélites de la croyance aux plaies. Dans le désert, les eaux jaillirent du rocher. La manne tomba du ciel. Les Israélites regardèrent le serpent d'airain et crurent aussitôt qu'ils étaient guéris des morsures venimeuses des vipères. Au sein de la prospérité nationale, des miracles accompagnaient les succès des Hébreux. Mais lorsqu'ils s'écartèrent de l'idée vraie, leur démoralisation commença. Même au temps de la captivité parmi les nations étrangères, le principe divin opéra des prodiges pour le peuple de Dieu, dans la fournaise ardente et dans les palais des rois. Les prétendus gaz et forces matérielles sont des contrefaçons des forces spirituelles de l'entendement divin, dont la puissance est la vérité, dont l'attraction est l'amour, dont l'adhésion et la cohésion sont la vie, perpétuant les faits éternels de l'être. L'électricité est l'excédent aigu de la matérialité qui contrefait la véritable essence de la spiritualité ou vérité. La grande différence entre l'électricité et la vérité étant que l'électricité n'est pas intelligente, tandis que la vérité spirituelle est entendement. Il n'y a pas de vaine fureur de l'entendement mortel exprimé sous forme de tremblement de terre, de vent, de vagues, de foudre, de feu et de férocité bestiale, et ce prétendu entendement se détruit lui-même. Les manifestations du mal, contrefaisant la justice divine, sont appelées dans les Écritures la colère de l'Éternel. En réalité, elles montrent l'autodestruction de l'erreur ou matière, et elles indiquent l'opposé de la matière, la force et la permanence de l'esprit. La science chrétienne met en lumière la vérité et sa suprématie, l'harmonie universelle, l'intégralité de Dieu, le bien et le néant du mal. Nous apprendrons un jour comment l'esprit, le grand architecte, a créé les hommes et les femmes dans la science. La science chrétienne présente le déroulement, non l'accroissement. Elle manifeste non une croissance matérielle partant de la molécule pour aboutir à l'entendement, mais une communication de l'entendement divin à l'homme et à l'univers. Tout ce qui est fait est l'œuvre de Dieu et tout est bon. L'harmonie et l'immortalité de l'homme sont intactes. Nous devrions nous détourner de la supposition contraire que l'homme est créé matériellement et porter nos regards vers le récit spirituel de la création, vers ce qui devrait être gravé dans la compréhension et le cœur avec la pointe d'un diamant et la plume d'un ange. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.